Interview.
1 du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nouveau compte-rendu de mandat radiophonique avec Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler ensemble de cette assemblée plénière du 29 juin 2017, la deuxième de l'année.
Oui, c'est ça. Effectivement, le rythme a été très ralenti par la période électorale à la région.
On s'en rappelle et c'est pas fini d'ailleurs. On en parlera en fin de cet entretien. Commençons tout de suite par un point sur la conférence de presse que vous avez eue avec le rassemblement. C'était le 28 juin, juste avant.
Oui, c'était la veille de l'assemblée plénière. On a voulu profiter de cette assemblée plénière de fin d'année pour faire un peu un point d'étape et un espèce de premier bilan de mandat pour les élus du rassemblement. Donc on a fait une petite conférence de presse avec un dossier qu'on a remis aux journalistes pour démontrer que même si on n'est pas très nombreux, on est tenace et on arrive tout de même à se faire entendre dans cette institution régionale. Donc voilà, on a rappelé d'abord que notre taux d'assiduité est un des plus importants de l'Assemblée régionale, puisqu'on a un taux de présence au niveau du groupe de 99%.
Ah, il y en a un qui a raté une fois, quoi.
Ouais, voilà, à peu près. Et puis qu'on ne perd pas notre temps, puisque depuis le début de ce mandat, on a quand même défendu 85 amendements, donc des modifications qu'on apporte à des délibérations qui sont proposées par l'exécutif de Laurent Wauquiez. On est intervenu 122 fois pendant ces sessions plénières. On a déposé 8 recours devant le tribunal administratif, plus la plainte que j'ai faite auprès du procureur de la République sur les soupçons de prise illégale d'intérêt, comme on s'en souvient, de M. Chabert, le conseiller délégué spécial à la montagne, qui a d'ailleurs abouti au lancement d'une enquête préliminaire qui a été confiée à la police judiciaire de Lyon, histoire de montrer que même quand on n'est pas très nombreux, quand on a avec soi des collectifs d'opposants, de citoyens, des associations, des mouvements sociaux qui se bougent, en réalité, on arrive quand même à faire entendre une autre musique. Et je crois que c'est très important de ne pas laisser la majorité toute seule dans cette région.
Et ça passe principalement par des mesures, je vais dire, de justice, finalement, de pénal.
Ça passe effectivement par ces recours juridiques, parce qu'il s'agit aussi de se faire respecter et ces recours juridiques sont souvent pour épingler des défauts de démocratie interne et de manque d'information des élus. Donc ça, c'est une première chose et je crois qu'on a réussi à gagner un certain respect par rapport à ça et à avoir un petit peu plus d'informations. C'est aussi par rapport aux amendements qu'on dépose et qu'on défend, même si on sait qu'ils ont très peu de chances d'être adoptés, puisque nous sommes minoritaires. C'est aussi déjà de tout simplement remplir le mandat qui nous a été confié par les électeurs en défendant le programme qu'on a porté pendant la campagne. Mais c'est aussi une manière d'acquérir une certaine forme de légitimité. Je sais, moi, par exemple, que sur les questions agricoles, j'ai des élus, les Républicains, qui régulièrement viennent me voir pour me dire que, même si on n'est pas d'accord, ils reconnaissent au moins le sérieux du travail qu'on fait sur ces dossiers. Donc c'est aussi une manière de montrer qu'on n'est pas juste des doux rêveurs, des gauchistes irresponsables ou des contestataires, et qu'on est capable de travailler les dossiers dans le fond et de faire valoir des arguments qui parfois marquent les esprits, même des élus de droite.
Un point sur ces contestations potentielles, est-ce que c'est serein quand même comme relation? Je veux dire, on entend souvent des politiques qui se font systématiquement désinguer parce qu'ils sont dans l'opposition. Est-ce que les rapports sont bons?
Je dirais pas ça.
Tout ça.
Je dirais pas ça. Ça reste poli et civilisé, on va dire, voire cordial parfois sur certains sujets, parce qu'il y a une forme de respect réciproque avec certains élus. Par contre, clairement, je pense que le jour où Laurent Wauquiez trouvera un moyen de m'épingler sur un sujet, il le fera absolument sans hésiter, sans aucune tendresse. Mais les choses sont très claires entre nous. Nous sommes adversaires politiques. Nous nous battons sur des projets qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Donc on le fait, on essaye de le faire en tout cas sur le fond, et ça n'empêche pas la forme de rester respectueuse et sur le contenu plutôt que sur des attaques personnelles, par exemple.
Alors, faut pas faire d'erreur politique, Corinne Morel-Darleux, c'est ça ?
Oui, non, là, je me sens scrutée, effectivement, et je sens que le moindre faux pas sera exploité.
C'est possible, des faux pas ?
Oh bah, c'est toujours possible, hein, on est des êtres humains. Hein.
Bon, on continue sur ce point conférence de presse, notamment, il a été beaucoup question de cette gestion de la région par Laurent Wauquiez, justement, on en parle. C'est compliqué, la presse, d'une manière générale, s'en fait l'écho en ce moment.
Oui, c'est très compliqué, effectivement, les choses sont de plus en plus tendues, y compris en interne, hein, ça l'était déjà au niveau externe, notamment avec les réseaux associatifs, notamment qui ont vu leurs subventions coupées et qui sont déjà monter au créneau. Mais là, les choses se tendent singulièrement au sein même de l'institution, dans les services, dans les directions de la région, avec des agents territoriaux qui sont, pour certains, au bord de la dépression, pour d'autres qui y sont. On a de plus en plus d'arrêts maladie, de plus en plus de souffrances au travail. Les syndicats alertent énormément là-dessus, sur l'absence de dialogue social et de toute considération de la part de Laurent Wauquiez pour cette souffrance au travail et pour sa manière aussi d'introduire des méthodes de gestion qui viennent du privé, dont on a vu les dégâts, hein, d'ailleurs, dans un certain nombre de grandes multinationales, ce qu'on appelle le new management.
Par exemple
C'est des méthodes de management par le stress, où on met les gens dans une forme d'insécurité permanente, où ils ne savent jamais exactement à quoi ils vont être affectés, qui va être leur nouveau chef, comment les choses vont être réorganisées, quels sont leurs objectifs, qui n'ont pas forcément de feuille de route, ou pour d'autres qui se retrouvent à avoir comme tâche de détricoter tout ce qu'ils ont construit auparavant pendant des années, ce qui est évidemment des situations très compliquées, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue tout simplement humain. Et c'est vrai qu'on arrive à un niveau de détresse sociale qui est alertant. Du coup, y a de plus en plus effectivement de médias qui commencent à s'en faire l'écho. Il y a eu notamment un dossier très approfondi qui a été réalisé par Mediacité et qui est sorti 2 jours avant cette session plénière, donc qui a mis une ambiance un peu curieuse au sein de la région, puisque c'est un dossier qui pointe une par une, fonction par fonction, toutes les politiques désastreuses et très destructrices que mène Laurent Wauquiez depuis qu'il est à la tête de la région, et qui fait aussi la démonstration de ce que nous on dit depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'en réalité Laurent Wauquiez voulait avoir le titre de président de région, mais sans en assumer forcément la fonction et tout ce qui va avec en matière de gestion interne.
Alors, des problèmes qu'on avait déjà soulevés au fur et à mesure des comptes rendus qu'on passe ensemble, hein, notamment, c'est exactement le même traitement que vous avez, vous élu, à avoir les dossiers en dernière minute. Donc, on voit que ça s'applique aussi aux fonctionnaires de la région. À quel moment le reste de l'exécutif arrêtera d'assumer cela ? Parce que c'est quand même, on parle toujours d'une seule personne, le président Laurent Wauquiez. Mais...
C'est vrai que ça tient beaucoup à la personnalité de Laurent Wauquiez, à sa personnalité, puis à ses ambitions aussi, hein, puisque... Lui, son plan de carrière ne se résume pas à la présidence de la région, et tout le monde aujourd'hui l'a bien compris. Au sein de l'exécutif, il y a des voix qui se font entendre, mais toujours en off, jamais publiquement, et on n'a jamais eu un vice-président ou une vice-présidente qui se désolidarise de manière affirmée et publique de ce que fait Laurent Wauquiez. Pour autant, là, bon, il va y avoir des changements, mais du coup, c'est plutôt des vice-présidents qui profitent de leur élection en tant que députés pour démissionner de l'exécutif et redevenir simples conseillers régionaux, puisque la nouvelle loi sur le cumul des mandats empêche d'être à la fois à l'exécutif régional et député. Donc, Émilie Bonivard, par exemple, qui s'occupait de l'agriculture, ne sera plus vice-présidente. Patrick Mignola, qui s'occupait des transports, ne va plus être vice-président non plus. Donc, il va y avoir quelques changements, mais sans des aveux publics des politiques de Laurent Wauquiez. Alors, Après, il y a peut-être d'autres choses qui vont bouger, puisque il y a des rumeurs d'essais de construction d'un groupe macroniste à la région. Évidemment, on n'est pas hors sol, donc on est nous aussi touchés par la grande vague jupitérienne, avec des élus que ce soit du côté du Parti socialiste ou du centre et de la droite, qui se verraient bien dans un groupe de constructifs avec Macron à la région. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il est possible qu'à la rentrée, les différents groupes aient un peu changé de nature et se transforment si ce groupe de macronistes voit le jour. Nous-mêmes, on a un petit changement dans le groupe. Alors, personne n'est parti chez Macron, hein, chez nous. Par contre, on a une nouvelle élue au moins qui va nous rejoindre, hein, une élue de l'Ardèche, Florence Sebaille, hein, qui, à la faveur justement de ces jeux d'élection aux législatives, était la suivante de liste et donc remonte d'un cran et va nous rejoindre donc dans le groupe du Rassemblement à la rentrée. Donc, on aura une élue de plus pour continuer à asticoter la majorité et à essayer de faire passer des mesures un peu plus progressistes.
On laisse là cette conférence de presse du 28 juin du Rassemblement, donc avec bien pas mal d'informations encore à trouver un peu partout sur Internet pour ceux qui nous écoutent par exemple, ou dans la presse. On passe à cette assemblée plénière avec un premier point que vous souhaitiez aborder, c'était les comptes administratifs, hein, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a pu voir notamment se rappeler à qui les subventions ont été distribuées.
Oui, alors effectivement, ce compte administratif, on l'attendait avec impatience, parce que c'est une sorte d'état des lieux des différentes subventions qui ont été versées toute l'année, un peu un point par rapport au budget prévisionnel qui avait été voté. Donc c'était intéressant évidemment de l'avoir. On a été un peu déçus parce que la forme sous laquelle il nous a été donné ne nous a pas permis de faire tous les tris qu'on aurait voulu et de pouvoir faire vraiment les additions et les bilans qu'on aurait souhaité.
C'est par paquet ?
Voilà, c'est par grand paquet, c'est par grande fonction, mais il y a quand même des choses qu'on a réussi à faire. Alors c'est un travail de fourmi parce qu'il faut aller repérer chaque chiffre et les additionner à la main quasiment à côté. Mais par exemple, ça a été assez intéressant. Notre élu Jean-Charles Collas s'est attelé à cette tâche de fourmi et a fait la somme des subventions attribuées par ville ou par agglomération. Et on a eu la surprise de constater qu'il y avait des disparités très importantes. Alors peut-être que c'est conjoncturel, hein, il faudra vérifier l'année prochaine, mais en tout cas cette année il y a des villes comme Annemasse et d'autres qui sont, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près à 2 euros 3 euros par habitant de subvention régionale. Et puis il y a une ville qui se distingue en tête de peloton, non pas avec 2 ou 3 euros par habitant, mais avec 50 euros par habitant. Et aux surprises, c'est l'agglomération du Puy-en-Velay, la ville dont Laurent Wauquiez est originaire, où il vit et dont il était le maire.
Et les villes qui ont peu de subventions, c'est politique ? Est-ce qu'on peut l'analyser comme ça ?
On a regardé ce point-là. Ce n'est pas forcément des villes de gauche. Par contre, c'est soit des villes qui sont effectivement tenues par des partis qui sont d'opposition à la région, soit des villes de droite, mais comment dire, imperdables. Vous voyez, des espèces de bastions où bon, il n'y a même pas besoin de faire du clientélisme pour être sûr de remporter les prochaines municipales. Par contre, les villes de droite, mais éventuellement perdables aux prochaines municipales, ont été assez largement arrosées. Et puis, bon, il y a ce statut un peu à part du Puy-en-Velay toujours.
Une ville comme Grenoble, par exemple ?
Bon, Grenoble ne fait pas partie des chouchous du président Laurent Wauquiez, ça c'est très clair. Elle fait partie des villes à moins de 5 euros. Il y a Vichy, il y a Saint-Égrève, il y a Bains, Annemasse, Ambérieu, Privas, Saint-Chamond, alors qu'à Vienne, par exemple, dans la Loire, vous êtes déjà à plus de 30 euros. Donc voilà, il y a quand même un palmarès qui est intéressant à regarder. Une fois de plus, c'est la première année, ça peut tenir à des projets spécifiques à une année, donc n'en tirons pas de conclusions hâtives, mais on regardera ça de très près également l'année prochaine et on verra si cette tendance se confirme.
Laurent Wauquiez revendiquait aussi pouvoir faire des économies avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et s'y atteler encore, est-ce que c'est le cas ?
Alors, il s'est effectivement beaucoup vanté de cet objectif de réalisation d'économies et de son atteinte. Hein. Il a lui aussi tenu une conférence de presse, naturellement, dans laquelle il est revenu très largement sur le fait qu'il avait effectivement réussi à faire ses économies. Or, quand on regarde de plus près ce compte administratif, on se rend compte qu'en réalité, ces économies, bon, d'abord, on l'a suffisamment dit, c'est des économies qui coûtent cher, hein, puisque en face des suppressions de subventions, bah, y a aussi beaucoup de licenciements et de pertes d'emplois. Donc à savoir si, voilà, si c'est le genre d'économie qu'on a vraiment envie de faire. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de sommes qui en réalité sont des sommes qui avaient été prévues pour réaliser des actions et qui n'ont pas été réalisées. Donc des actions qui étaient prévues, qui n'ont pas été réalisées, c'est des sommes importantes, hein, sur la formation professionnelle par exemple, qui est quand même un truc un peu utile dans la vie, c'est 38 millions d'euros non réalisés qui avaient été affectés, qui n'ont pas été dépensés, 18 millions d'euros dans les transports qui sont beaucoup liés à des annulations de trains faute de conducteurs du côté de la SNCF, donc qui n'a rien à voir avec une volonté d'économie de la région, ni avec d'ailleurs l'amélioration d'un quelconque bien-être pour les usagers et pour les habitants, puisqu'on parle là de trains annulés, ou encore en matière d'action économique, par exemple 10 millions d'euros là aussi, qui devaient être affectés à des aides et qui n'ont pas été affectés, 10 millions d'euros pour les artisans, les TPE et les PME de la région. Je pense que eux auraient su largement quoi en faire durant cette année. Donc voilà, c'est des économies, c'est un peu un abus de langage de parler factuel, d'économie, ouais. C'est de l'argent qui aurait dû être affecté sur des actions et qui n'a pas été dépensé par la région.
Argent qui sera donc remis dans le pot l'année prochaine ?
Alors, on verra. On va avoir justement à la rentrée les premières discussions d'orientation budgétaire pour le prochain budget. Donc, on verra à ce moment-là, effectivement, quel est le report de ces sommes. Et puis surtout, où elles sont affectées et quelles sont les priorités pour l'année à venir de cet exécutif, de Laurent Wauquiez.
Corinne Morel-Darleux, vous vouliez que nous nous arrêtions sur... quelque chose d'étrange, c'est la qualité des sujets abordés en plénière. Parce que bon, on voit bien et on suit sur ces différents mandats radiophoniques à la fois les plénières, à la fois les commissions permanentes. En commission permanente, ça travaille assez dur. Là, visiblement, deux sujets qui vous semblent non pas importants, mais un peu... futile sur une telle réunion.
Alors, il faut déjà juste peut-être commencer par rappeler pour les auditeurs que il y a effectivement donc deux types de sessions. Il y a l'assemblée plénière où sont présents tous les élus, qui est ouverte au public et aux journalistes, qui est retransmise par vidéo sur le site internet de la région. Donc c'est vraiment le moment public. C'est des rapports sur lesquels l'opposition a un droit d'amendement. Donc on peut demander à modifier, on peut présenter nos amendements en session, on peut débattre. Enfin voilà, c'est des choses où on a le temps de débattre et où on a la possibilité de modifier des choses. Et puis il y a les commissions permanentes qui, elles, se déroulent à huis clos, sans droit d'amendement, où c'est un peu au pas de charge, où on examine des centaines de rapports en deux heures et où tous les élus ne sont pas présents.
Et c'est normalement, un peu le par ordonnance là, de l'État, ça.
Oui, en quelque sorte. Et du coup, normalement, en commission permanente, on est uniquement sur la mise en œuvre de ce qui a été voté en assemblée plénière, donc une déclinaison opérationnelle des grandes orientations qui ont été débattues et votées en assemblée plénière. Or là, de plus en plus, il y a une tendance de la part de la majorité à faire passer des sujets très importants en commission permanente, sans donc qu'on ait la possibilité ni de les amender, ni de les débattre. Ça a été le cas, par exemple, la dernière fois en commission permanente de la nouvelle politique régionale en matière d'installation et de transmission en agriculture, qui est quand même pas un sujet de moindre importance et qui aurait été utile de pouvoir débattre publiquement et d'amender. Et puis à l'inverse, d'autres sujets, alors qui sont fort respectables et très importants, mais qui sont quand même moins déterminants pour l'avenir de la région et de ses habitants, qui eux sont par contre débattus en assemblée plénière. Et là, ça a été le cas de deux plans, par exemple, le plan Châtaigne et un plan pour les véloroutes dans la région. Alors, c'est deux sujets très intéressants. Moi, je me suis plongée dans l'histoire des châtaigneraies dans la Drôme Ardennes. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris qu'il y avait deux communes de la Drôme dans l'appellation AOP Châtaigne-d'Ardèche. Voilà, c'était absolument passionnant. On se rend compte qu'on importe des châtaignes de basse qualité qui viennent de l'autre bout du monde pour faire de la crème de marron et qu'en revanche, on exporte nos belles châtaignes d'Ardèche à l'étranger. Enfin bon, il y a moyen de se passionner pour ça sans aucun problème. Mais je m'interroge quand même sur voilà, la priorisation et la hiérarchisation discussion des sujets entre l'Assemblée plénière et la commission permanente. Je m'interroge d'autant plus que j'ai été, je dois dire, assez profondément vexée par une petite manipulation un peu mesquine de Laurent Wauquiez à cette occasion, puisque j'ai présenté un certain nombre d'amendements sur le plan Châtaigne, notamment pour introduire la notion de bio, qui m'a été refusé, pour introduire la nécessité d'avoir des espèces rustiques qui sont plus résistantes aux aléas climatiques, ce qui m'a également été refusé. Et puis il y avait un amendement pour promouvoir les produits dérivés de la châtaigne dans les restaurants et parmi les acteurs du tourisme localement. Parce que, après tout, si on veut favoriser la production locale de châtaigne, eh ben, autant faire en sorte que les gens localement consomment de la châtaigne et de la crème de marron. Et bon, c'était pas franchement l'amendement du siècle, hein, mais enfin voilà, on participe au débat. Et évidemment, c'est cet amendement-là que Laurent Wauquiez a choisi de nous accorder. C'est-à-dire que concrètement, je me bats depuis un an et demi sur l'agriculture biologique et paysanne, à décortiquer les dossiers, à travailler en lien avec tous les acteurs du réseau, à essayer de défendre l'introduction d'alimentation de qualité dans la cantine des lycées. Enfin, voilà. Et l'amendement que Laurent Wauquiez décide de m'accorder, c'est la promotion de la crème de marron dans les restaurants de la Drôme, quoi. Et j'avoue que je pense que ça lui a fait très plaisir. J'avoue que j'ai trouvé ça vraiment très mesquin de sa part et que j'ai été passablement vexée, voilà, d'avoir obtenu cet amendement. Honnêtement, ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi en premier.
Voilà pour les châtaignes. Et donc, on pourra donc manger de la crème de marron de Roumanie, hein, notamment, puisque c'est de là que ça vient, même quand elle est fabriquée en Ardèche. Il y avait le véloroute aussi. Alors ça, sujet aussi d'importance, pourquoi pas, mais finalement...
Oui, voilà, c'est pareil, si vous voulez. C'est important de se dire qu'on va aménager des voies pour que les gens puissent faire du tourisme à vélo dans la région. Mais des rapports comme ça, il en passe des dizaines à chaque commission permanente. Pourquoi choisir d'en faire un sujet d'assemblée plénière et d'y passer deux heures en réunissant l'ensemble des élus, alors que d'autres sujets très importants de suppression de crédits au centre d'accueil de femmes, par exemple, sont eux non débattus et passent en 1:30 en commission permanente.
Voilà, donc la question, elle est facile. Pourquoi ces faire ? Eh bien, justement, pour empêcher ce débat, faire en sorte que des décisions d'importance passent à la trappe et que vous ne puissiez pas agir.
Voilà, sans discussion, il y a effectivement un petit effet ordonnance au 49.3.
Et ces débats vous pompent l'intégralité d'une assemblée plénière, comme ça, à tourner en rond autour de sujets moyens ?
Oui, alors il n'y a pas que ces sujets-là, il y avait aussi des sujets importants sur l'apprentissage, sur la culture. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des choix pour le moins étranges.
Ouais. Mais cette moyenne-là, je veux dire, est-ce que tout le monde tombe dans le panneau ? L'ensemble des élus, des différents groupes pourraient très bien dire « Non mais attendez, c'est pas intéressant, passons à quelque chose de concret ». Ou est-ce qu'on y va et tout le monde débat pendant deux heures, donner son avis sur la châtaigne, enfin bon.
Non, clairement, il y a une espèce d'auto-discipline.
Ouais, quand même.
C'est-à-dire que c'est pas sur ces sujets-là qu'on dépose le plus d'amendements et qu'on passe le plus de temps. Et très honnêtement, il y a des explications de vote, par exemple, où on passe notre tour parce que ça nécessite pas de prendre nos trois minutes de temps de parole et qu'on préfère les prendre sur d'autres sujets plus importants. Donc il y a clairement une espèce d'autodiscipline à ne pas passer des heures sur certains sujets et à réserver notre droit d'amendement sur d'autres sujets plus importants.
Ouf, j'allais dire. Allez, on passe à des vœux. Vous avez participé et proposé deux vœux. Hein. Un sur la centrale du budget.
Oui, effectivement, donc, c'est un vœu que j'ai présenté moi au nom du groupe du Rassemblement. Cette centrale nucléaire du budget, il faut savoir que c'est la deuxième plus vieille centrale de France. Elle est installée à un endroit où il y a un
après
risque...
Après Fessenheim, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Okay. Elle est installée à un endroit où il y a un risque sismique et surtout, elle est à 35 km de Lyon. Et il y a un périmètre qui est préconisé par l'autorité de sûreté nucléaire, notamment de 80 km kilomètres autour de cette centrale. Et quand on regarde attentivement, ça comprend beaucoup de grandes villes de la région et ça concerne 4 millions d'habitants. Ça veut dire que voilà, la métropole de Lyon et dans l'ensemble 4 millions d'habitants sont dans ce périmètre de sécurité qui devrait être mis autour de la centrale nucléaire du Bugey. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est absolument incapable d'évacuer Lyon en cas d'accident majeur, qu'on est incapable d'assurer donc la sécurité des populations de ces 4 millions d'habitants, que les communes, qui sont déjà totalement asphyxiées financièrement, n'ont pas les moyens de mettre en place les plans de sauvegarde communaux qu'elles devraient pour faire face à ce risque industriel nucléaire qui existe. Et donc, on a rédigé ce vœu de manière à ce que ce ne soit pas un vœu pour ou contre le nucléaire, mais que ce soit vraiment un vœu d'appel à la responsabilité individuelle de chaque élu, en son âme et conscience, à s'exprimer sur notre capacité à garantir tout simplement la sécurité de ces 4 millions d'habitants. Et donc, est-ce qu'on prend ou pas le risque de voir un incident majeur sur la centrale du Bugey, qui en a connu beaucoup, qui au moment de la plénière venait de connaître deux déclenchements de cellules de crise avec deux départs de feu en moins de 10 jours, et d'en appeler voilà, à la responsabilité de chacun sans rentrer dans le débat idéologique, sans rentrer dans des oppositions un peu dogmatiques sur le nucléaire, mais en vraiment en se focalisant sur cette centrale, sur ce risque, sur notre capacité à évacuer les gens, et en rappelant une chose importante qu'on entend assez peu souvent sur le nucléaire. Moi, je l'ai rappelé en session aussi pour essayer de marquer un peu les esprits. J'ai été consultante auprès d'entreprises du CAC 40. J'ai fait de la conduite de projet pour des grands industriels. Et quand je faisais de la conduite de projet, on faisait de l'analyse de risque, et dans l'analyse de risque, on prenait en compte deux choses. La probabilité que le risque arrive, et dans le cas du nucléaire, la probabilité d'un accident majeur type Fukushima est faible, il faut le dire. Mais on prenait aussi en compte la criticité du risque, c'est-à-dire s'il arrive, est-ce que c'est grave ou pas? Et là, pour le coup, évidemment, la criticité, elle est très élevée. Et dans n'importe quelle entreprise privée, quand vous faites de l'analyse de risque, vous prenez en compte ces deux facteurs. Et même si la probabilité est faible, mais que la dangerosité est importante, c'est un signal rouge qui vous fait abandonner le projet. Donc voilà tous les éléments qu'on a rappelés. On a réussi en intégrant un sous-amendement des socialistes qui demandait que la région se prononce non pas pour la fermeture du Bugey, mais pour le lancement des études préalables à la fermeture du Bugey. Bon, on a accepté ce sous-amendement qui formellement...
fait gagner du temps.
Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que de toute manière, il y a des études préalables à lancer avant la fermeture. Donc autant les lancer le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Donc, suite à ce sous-amendement que nous avons accepté, nous avons obtenu, et c'est déjà un progrès, le vote favorable sur ce vœu des autres groupes du Parti socialiste, du Parti radical de gauche et du Parti communiste français, ce qui est quand même un pas remarquable et positif, bien entendu. En revanche, sur les rangs de la droite et de l'extrême droite, on n'a pas fait bouger grand monde. On a eu 3 abstentions du côté de l'UDI et tout le reste des élus, en leur âme et conscience, individuellement, ont donc tous voté pour le maintien en l'état de cette centrale du Bugey.
Alors, plusieurs questions. Tout d'abord, les centrales ont bien une assurance, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, quelle assurance peut assumer justement un risque nucléaire? Ça, c'est bien la question que je me pose, auquel vous ne pouvez pas forcément répondre. Et pardon, mais sur cette responsabilité, c'est quoi concrètement? C'est de dire j'assume en mon âme et conscience, en votant contre, d'être responsable de ce qui pourrait arriver, et vous ne l'assumez pas, et du coup, vous désolidarisez de cette chose, mais pour autant, si ça arrive, ça arrivera quand même.
Ah bah oui, ça malheureusement, si ça arrive, ça arrivera quand même. Et du côté des assurances, il faut savoir que normalement, il aurait dû y avoir des provisions faites pour ce risque d'accident majeur et que pendant des années et des années, EDF n'a absolument rien provisionné. Donc concrètement, si demain il y a un accident majeur en France lié à une centrale nucléaire, personne ne sait qui est responsable, qui paye et clairement les plans d'évacuation aujourd'hui ne sont pas au point. Donc ça c'est une première chose. Après sur la responsabilité des uns et des autres, c'est comme sur beaucoup de sujets, hein. Il y a à un moment donné un devoir d'alerte et qui est d'autant plus important, qui est déjà important au niveau de chaque citoyen, mais qui est d'autant plus important quand on est élu de la République. Et c'est vrai que nous, au niveau du groupe du Rassemblement, on ne se voit pas face à la multiplication des incidents dans cette centrale, ne pas à un moment donné tirer l'alarme publiquement, même j'ai envie de dire solennellement, puisque mon intervention s'est faite avec beaucoup de gravité dans l'Assemblée, même si tout le monde n'était pas très attentif. Ça fait partie de notre devoir aussi d'alerte à un moment donné, de dire les choses, et de dire les choses factuellement, en rappelant les communes concernées, le périmètre, les 80 km, les 4 millions d'habitants, les plans de sauvegarde communaux qui ne sont pas au point, de donner à chacun des éléments pour, effectivement, en son âme et conscience, prendre position.
La centrale du Bugey est collée au village de Hyères-sur-Amblie. On parlait de 80 km. Est-ce qu'il y a une centrale en France qui n'est pas à 80 km d'un village?
Et non, c'est une des spécificités françaises. Nous avons inventé le nucléaire de proximité. Ouais. Puisque, effectivement, avec l'ensemble des réacteurs disséminés sur l'ensemble du territoire, en réalité, tout le monde est plus ou moins proche d'un réacteur nucléaire aujourd'hui en France, avec toutefois des différences en matière d'appréciation de la sécurité, puisque certaines centrales sont plus vieilles que d'autres. Certaines centrales sont sur des terrains plus ou moins stables. Certaines centrales sont à proximité de cours d'eau importants, d'autres non. Enfin voilà, tout ne se vaut pas. Maintenant, c'est vrai que l'ensemble des Françaises et des Français sont exposés aujourd'hui à ce risque.
Et rappelons que la région Auvergne-Rhône-Alpes a quasiment toutes ses centrales autour d'un cours d'eau d'importance et toute proche d'une grosse ville.
Exactement, et que c'est la région la plus nucléarisée d'Europe.
Ouais. Y a-t-il encore un enjeu économique là-dessus? Quel intérêt, par exemple, pour les élus, y compris républicains d'Auvergne-Rhône-Alpes, de défendre bec et ongle? Est-ce que c'est l'idée nationale qui les rejoint, ou est-ce que quand même, économiquement, pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bon d'avoir ces centrales?
Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs enjeux. L'enjeu économique, il n'est pas tant d'un point de vue financier, parce qu'en réalité, la poursuite du nucléaire a un coût qui est absolument exorbitant, puisque depuis l'accident majeur à Fukushima, il y a de nouvelles normes et l'ensemble des centrales doivent être remises à ces nouvelles normes de sécurité. C'est ce qu'on appelle le grand carénage, et ça représente des sommes d'investissement qui sont absolument faramineuses, et c'est d'ailleurs probablement ça qui va finalement mener à l'arrêt du nucléaire, parce qu'aujourd'hui l'État n'a pas les moyens de les mettre aux normes. Donc l'enjeu économique se situe pas tant là, il se situe ailleurs. D'abord, il faut être honnête, le nucléaire aujourd'hui en France représente un nombre conséquent d'emplois. Ça, c'est une première chose. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. D'abord parce que la pyramide des âges chez EDF fait qu'il y a une grande partie des agents qui vont arriver à la retraite dans les 20 ans qui viennent, et que donc on peut planifier des non-remplacements au fur et à mesure des départs à la retraite sans être sur du licenciement sec. Première chose. D'autre part, parce que même si on décide d'arrêter le nucléaire, ça ne se fera pas du jour au lendemain, et qu'il y aura des travaux d'arrêt, de démantèlement qui vont se poursuivre pendant des années, et que donc il continuera à y avoir de l'activité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles les pouvoirs publics peuvent s'engager, y compris sur des contrats de transition, comme a commencé à en parler d'ailleurs Nicolas Hulot dans ses dernières déclarations. Mais au-delà de cet enjeu, il y a deux autres choses. D'abord, il y a un pouvoir de blocage énorme de la part des travailleurs du nucléaire et des syndicalistes du nucléaire. Parce que si demain, la CGT Mines-Énergie décide de se mettre en grève dans tout le pays, on est tellement dépendant aujourd'hui de cette source d'électricité qu'ils sont en capacité de paralyser le pays. Première chose.
Gros lobby,
donc,
quoi.
Pour le coup, c'est une résistance syndicale qui est efficace.
Ouais.
Et on l'a vu à Fessenheim. Et puis l'autre chose qui est, je pense, très profondément ancrée, c'est qu'on vit depuis De Gaulle sur cette espèce de fierté d'excellence nationale de la filière nucléaire, et qu'il y a une vraie idéologie du nucléaire qui est ancrée très profondément parmi les élus, mais pas seulement, parmi la population aussi. Et le discours a été tellement martelé que le nucléaire est une énergie propre, que le nucléaire est le garant de l'indépendance énergétique française, que le nucléaire s'exporte et se vend à l'étranger et permet à la France de rayonner à l'international. Enfin, toutes ces choses dont on nous abreuve, dont on continue à être abreuvé, y compris régulièrement sont dénoncées l'arrivée de brochures d'Areva sur les tables des des écoliers et des collégiens et lycéens pour continuer à propager ce mythe du nucléaire.
Avec visite de centrale à l'appui. Hein.
Absolument. Et du coup, voilà, il y a vraiment pour le coup un discours idéologique dominant depuis des décennies en France dont il est très difficile de se défaire pour la grande majorité des gens. Et ça compte. Voilà, on s'en rend compte dans le débat qu'on a eu au moment de ce vœu, était très éclairant, si je peux me permettre, par rapport à ça, dans les arguments qui ont été utilisés en face de nous, hein, puisque le Front National, par exemple, nous explique que pas du tout, il n'y a aucun problème de sécurité avec le nucléaire, et que d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une agence indépendante, est là, veille et contrôle. Alors même que l'autorité de sûreté nucléaire, on vient de le voir avec la validation de la cuve et du couvercle de l'EPR de Flamanville, est elle-même très divisée sur la question, tenue par d'autres intérêts et obligée au final de se prononcer avec des phrases que personne ne comprend, où ils expliquent qu'en fait le couvercle il est tout pourri mais on va quand même l'utiliser, mais qu'il faudra le remplacer très rapidement parce que quand même ça craint. Enfin je veux dire pardon, mais quand on a des recommandations comme ça de la part de l'ASN, on peut quand même s'interroger sur la garantie que ça représente. Et puis nous explique toujours le Front National que voilà, c'est 5000 familles qui dépendent des emplois de la centrale du budget, que le grand carénage est en cours et que donc tout va bien, qu'il n'y a pas de risque et qu'il faut préserver ces emplois-là. Sans imaginer une seule seconde la manière dont on pourrait accompagner précisément ces emplois et ces familles vers d'autres emplois qui soient un petit peu plus d'intérêt général et un petit peu moins menaçantes pour toutes les autres familles qui ne dépendent pas directement de ces emplois mais qui par contre sont directement sous le coup de la menace en cas d'accident.
Voici pour la centrale du Bugey un autre vœu autour de la A45. Ça, c'est dur à dire vite ça. un rassemblement hein, assez important qu'il y a eu contre cette nouvelle autoroute. Et puis il y a cette annonce de pause hein, de par l'État. Hein.
Oui, alors l'A45, c'est effectivement un projet de nouvelle autoroute hein, entre Lyon et Saint-Étienne, qui en réalité d'ailleurs n'est pas entre Lyon et Saint-Étienne, mais entre deux petites villes, donc qui est censé faire gagner du temps, sauf qu'en réalité, du coup, vous allez d'un bouchon à un autre, parce que le temps d'accès à cette nouvelle autoroute et le temps d'en sortir seront tout aussi embouteillés que les ralentissements qu'on peut vivre aujourd'hui sur l'autoroute existante. Et puis avec une différence majeure, c'est que l'autoroute existante, elle est gratuite, et puis que la nouvelle évidemment sera payante et que à nouveau le fruit de ces péages ira directement dans les poches de Vinci qui a déjà été choisi comme concessionnaire. Le tout avec en plus un coût public faramineux pour construire cette nouvelle autoroute qui sera seulement à quelques mètres hein, parfois de l'autoroute existante, alors que celle qui existe déjà aurait pu être élargie, requalifiée comme ça a été fait à plein d'autres endroits pour beaucoup moins cher. Pour la région, c'est quand même plus de 130 millions d'euros hein, qui sont prévus pour cette autoroute. Donc c'est un projet qui en plus passe sur des centaines d'hectares de terres agricoles et naturelles. Et donc il y a une mobilisation assez importante qui s'est mise en place au niveau local et au-delà, avec notamment des agriculteurs du coin, mais aussi des élus, des communes, même des élus de droite d'ailleurs, hein, qui sont contre le projet. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se mettre en place. Il y a eu un rassemblement le week-end dernier à Saint-Maurice-sur-Dagoire dans le Rhône qui a été un rassemblement citoyen assez important pour dire que ce projet était à nouveau un grand projet inutile et imposé. Et puis donc il y a eu un vœu qu'on a déposé avec donc le rassemblement, le Parti radical de gauche et le Parti communiste français ensemble à la région pour demander l'arrêt de ce projet, rappeler l'ensemble de ces éléments et puis là aussi appeler chaque élu à sa responsabilité puisqu'il a été demandé sur ce vœu un vote nominatif. C'est-à-dire que concrètement, on appelle un par un chaque élu et que chaque élu dit à voix haute et intelligible quel est son vote. L'objectif est que chacun se positionne de manière publique et très clairement, sachant que certains élus de la majorité de Laurent Wauquiez localement se disent contre le projet et en même temps votent ensuite comme un seul homme à la région. Donc le but était que chacun clarifie un peu plus clairement sa position. Ce vœu a malgré tout été rejeté. Par contre, ce qui est intéressant, alors C'est toujours difficile de savoir quelle est la part de l'opposition et de la résistance. Toujours est-il que quelques jours après la session et surtout après le rassemblement dans le Rhône des opposants, une déclaration de la ministre des Transports, Madame Borne, a été faite concernant différents projets d'infrastructures de transport et notamment sur l'A45, elle a décrété une pause. Pause qui sera réexaminée l'année prochaine. Donc on ne sait pas pour l'instant si c'est une pause de quelques mois, une pause de quelques années ou une pause définitive. En tout cas, voilà, il y a une première étape de franchie en termes de moratoire. Évidemment, il faudra rester très mobilisé et très vigilant, mais un premier pas, en tout cas, a été gagné par les opposants à ce projet.
Ce qui nous permet de se rappeler de la A51 hein, qui devait traverser et transpercer tout le dévolu et qui est en pause depuis... Pouf.
Oui, sachant qu'en plus tout ça se fait en parallèle de l'abandon total de toutes les promesses de la région sur le report modal.
Voilà,
il y avait eu des engagements très importants hein, de fait sur la relance du ferroviaire dans la région. Patrick Mignola, donc, qui était le vice-président au transport, qui est maintenant démissionnaire puisqu'il a été élu député, s'était engagé. Il était allé assez loin, y compris parfois en contradiction avec Laurent Wauquiez. Il s'était engagé publiquement auprès des associations, des collectifs d'usagers sur des actions fortes, des investissements forts sur le report modal, donc pour le transport de marchandises, pour alléger un peu la pollution, notamment dans les vallées alpines, sur le réexamen aussi du projet de Lyon-Turin, sur la sauvegarde des petites lignes de TER. Tout ça a été balayé du revers de la Manche. On ne sait pas exactement quels ont été les arbitrages qui ont eu lieu au sein de l'exécutif. Toujours est-il que le rapport qui nous a été présenté durant cette assemblée plénière ne faisait plus aucune mention de ces engagements du vice-président, plus aucune mention des propositions portées par les collectifs et les usagers qui devaient être reprises. Et on s'est retrouvé avec un rapport qui est, pardon de l'expression, mais du foutage de gueule, dans lequel il y a absolument plus rien, rien sur le ferroviaire et tout sur l'autoroute, quoi, une fois de plus.
Voilà, pour ceux qui en sont au bord des autoroutes, hein, bah, vous avez encore du boulot à faire. Nous parlions de cette assemblée plénière du 29 juin 2017 avec un léger décalage, parce que vous êtes parti en Turquie avec toute une équipe d'élus pour suivre un procès et vous faire virer du tribunal d'ailleurs, hein. J'ai lu ça.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai enchaîné, après cette session plénière, je suis partie directement à Paris, puis à Ankara, en Turquie, puisque le mardi 4 juillet se tenait un procès très important, celui de l'ancienne coprésidente du HDP. Le HDP, c'est la troisième force politique en Turquie, hein, qui a eu 6 millions d'électeurs aux dernières élections législatives, et un certain nombre de députés. C'est un parti qui défend des valeurs qui sont très proches des nôtres, hein, qui défend la laïcité, le féminisme, l'écologie, le social, avec lequel on travaille donc de manière très régulière et qui est la première opposition de gauche au régime de M. Erdogan en Turquie. Et il se trouve qu'après le fameux coup d'État du 15 juillet 2016 et les purges qui se sont suivies, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'arrestations de journalistes, de juges, d'avocats, de fonctionnaires qui se sont retrouvés incarcérés
d'artistes.
Ou licenciés, d'artistes également, d'écrivains, d'Asli Erdogan notamment, qui a été hommagé ici à Die au théâtre à plusieurs reprises. Et puis il y a 8 mois, il y a eu aussi, la même journée, un grand coup de filet politique où de nombreux dirigeants du HDP, 11 députés, plusieurs co-maires de grandes villes, notamment de la partie kurde de la Turquie, de Diyarbakir notamment, ont été arrêtés, sans préavis hein, bien entendu, mis en prison. Et il se trouve que cette coprésidente, Figen Yüksekdag, est en prison aujourd'hui depuis 8 mois. C'est une sorte de garde à vue prolongée hein, qui est contraire même à la constitution turque hein, par ailleurs. On ne garde pas les gens 8 mois en prison en attente de leur procès. Et donc mardi, c'était son procès après 8 mois de détention et elle risquait 83 ans de prison.
Et sur quel motif ?
Sur des motifs alors qui sont officiellement des motifs de complicité avec des organisations terroristes et qui, en réalité, quand on regarde les chefs d'inculpation, consistent à avoir appelé, par exemple, pendant le siège de Kobané, à la création d'un corridor humanitaire qui consiste à avoir soutenu les Kurdes qui ont été assiégés à Diyarbakir, dans le quartier de Sour, à Gizré, et qui ont à un moment donné effectivement pris les armes pour se défendre quand les populations civiles étaient bombardées. Donc pour avoir refusé de les qualifier de terroristes, pour les avoir qualifiés de résistance armée. Voilà le genre de chef d'inculpation. Il faut savoir en plus que Figen n'est pas kurde elle-même. Elle est originaire d'une famille traditionnaliste, nationaliste, turque, qui est généralement plutôt le type de profil qu'on retrouve du côté d'Erdogan. Elle a un parcours singulier, extrêmement intéressant. C'est une féministe très engagée et qui a toujours été engagée pour la défense des droits et des libertés démocratiques, tout simplement.
Et alors, vous vous êtes fait virer de ce procès. Le tribunal a été vidé.
Alors effectivement, donc nous sommes rendus à Ankara. On était quelques observateurs internationaux à avoir fait le déplacement. On était quatre Français, il y avait un Suisse, quelques Anglais, il y avait une personne du Danemark et d'Allemagne également. On était une quinzaine d'observateurs internationaux. Et on répondait à un appel, puisque quand des observateurs internationaux sont présents, les camarades turcs se sont rendus compte que dans ces cas-là, ils avaient moins de gaz lacrymogène dans les couloirs du tribunal, et que en plus ça permettait tout simplement de témoigner de ce qui se passe. Donc ça fait à la fois une protection et puis une source de témoignage intéressante. Et jusqu'ici, les délégations internationales ont toujours été autorisées dans le tribunal, puisque ça fait partie des conventions internationales et de l'OSCE, quand un procès est public, d'avoir le droit à ces observateurs internationaux. Et là, pour la première fois, et pourtant, Dieu sait si des pas ont été franchis en matière démocratique en Turquie depuis, mais là, c'était la première fois que l'accès à la salle a été refusé à cette délégation internationale. Donc après des heures et des heures de pourparlers, on a réussi à faire rentrer 5 personnes, une par pays, qui sont restées en tout et pour tout 3 minutes dans la salle avant de se faire à nouveau expulser, sur ordre cette fois direct, visiblement, du ministère et du gouvernement. Donc le gouvernement aujourd'hui turc de M. Erdogan refuse l'accès à un procès public à des observateurs internationaux.
Vous parliez de ceux qui savent que la Turquie avait fait des pas en avant en matière démocratique. On voit aussi, on sait que ces derniers temps, c'est du gros recul. Et là, c'en est une preuve encore plus flagrante. On sait qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne condamnée.
En fait, si vous voulez, tout au long de cette journée, on a touché du doigt très concrètement ce qui est à la fois la violence contenue d'avoir face à soi des dizaines de policiers très lourdement armés qui vous bloquent le passage, d'une part, mais d'autre part aussi l'arbitraire total en fait de ce système qui est mis en place par M. Erdogan en Turquie, puisque jusqu'au bout ça aura été le cas. Vers minuit, nous on continuait à suivre le procès même si on n'était pas dans la salle, et vers minuit en fait le tribunal a décidé d'ajourner le procès et qu'il se poursuivrait le 18 septembre. Nous on était avec le mari de Figen à ce moment-là. Vous avez là une femme qui est depuis 8 mois en prison, ouais, qui a enfin droit à un procès, même s'il se fait sans observateurs internationaux, et à qui on dit que, sans explication, que finalement elle va retourner passer plus de 2 mois entre 4 murs, et que la suite de son procès, où elle risque 83 ans de prison, elle est née en 71, donc autant dire que les 83 ans de prison se poursuivront après sa mort, et qu'il faut encore attendre le 18 septembre pour avoir droit à un jugement. Voilà, c'est le règne de l'arbitraire, c'est extrêmement violent, et je dois dire, et je tiens à le dire, que dans tout ça, la force des avocats, des députés et de l'accusée elle-même, qui a pu prendre la parole pendant son procès et qui est apparue absolument lumineuse et ne reniant absolument rien de ses combats. Elle a redit que même si elle avait droit à plusieurs vies et qu'elle devait être condamnée toutes ses vies à les passer en prison, elle ne renierait rien de son combat pour la démocratie, pour les droits, pour les libertés et pour le droit à l'ensemble des minorités à vivre sur le territoire turc en paix. Je dois dire que ça force le respect. que le courage de ces militants est une excellente piqûre de rappel pour celles et ceux qui vont parfois un peu vite dans leur qualification de ce qu'on peut vivre ici en France. Et que voilà, il faut se rappeler aussi de temps en temps qu'il y a encore des pays, pas si loin que ça, où ceux qui défendent la même chose que nous risquent davantage qu'un rappel à l'ordre de M. Wauquiez en séance.
Et c'est une situation difficile, mais elle vous met quand même le sourire, donc ça veut dire que ça booste.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des grandes leçons de dignité et de courage.
On va se retrouver dans un bon moment pour le prochain compte-rendu de Mandiat Radiophonique, Corinne Morel-Darleux, assemblée plénière prévue le 27 septembre, et puis après plus rien avant le 7 décembre, il y aurait encore une campagne républicaine en cours.
Et oui, tout à fait. On a eu la surprise de voir effectivement dans le calendrier de ce deuxième semestre que nous n'aurions que deux sessions. Donc la première fin septembre pour discuter des orientations budgétaires, et ensuite on saute directement à la session budgétaire le 7 décembre. Entre les deux, il y a donc plus de deux mois où il ne se passera rien pour nous du côté des élus de la région. En revanche, ça devrait être assez actif du côté de Paris, puisque ça correspond à la période où devrait se tenir le congrès du parti Les Républicains, dont M. Wauquiez brigue la présidence.
Eh bien, on attendra donc le 29 septembre pour se revoir. D'ici là, bon été, Corinne Morel-Darleux.
Merci.
À bientôt.
Bel été à vous.
Hey, the bird. L'interview du jour. L'interview du jour.